Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Et Roland Courbis, et vous au 32-16. Rappelons que ce soir, première affiche de la 21e journée de Ligue 1, Lille s'est imposée 2-1 face à Amiens. Lille, deuxième de Ligue 1, qui restera d'ailleurs dauphin du Paris Saint-Germain à l'issue de cette journée. On était avec Yaya, supporter du Loge, qui nous a appelé au 32-16. T'es toujours là, Yaya ?
Oui, bien sûr.
Alors, Yaya, toi, tu trouves que cette victoire, elle est quand même tirée par les cheveux pour le Loge ?
Ben oui, elle est tirée quand même par les cheveux, parce que bon, j'attendais un petit peu mieux de Lille, sachant que bon, ils savaient très bien que bon, c'était un match qu'il fallait gagner, important, quand on sait qu'il y a le choc avec le derby Saint-Étienne-Lyon, donc il fallait absolument le gagner. Mais je pense que bon, ils sont tombés aussi sur une équipe, comme disait Roland à l'instant même, qui a bien joué le coup, hein. Donc ils mènent déjà au bout de 5-10 minutes, ils ont les moyen de tuer le match à un moment donné, et Lille qui a commencé à douter, hein. Donc Lille qui a toujours pris cette fâcheuse habitude.
Qui doute aussi après le pénalty raté.
Pardon ?
Qui doute aussi après le pénalty raté. Quand tu es mené 1-0 et que tu rates le pénalty de l'égalisation, tu peux quand même te dire, sans être pessimiste, c'est pas mon soir. Eh bien, il gagne quand même.
Voilà, exactement. Et ça me fait penser justement aux équipes qui gagnent des points sans même faire un grand match. C'est dire si Lille va quand même être là, hein, jusqu'au bout. Je pense qu'il devrait sans trop de problèmes être dans les 3-4.
Enfin, moi je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Ludo également. Toi, ça te rappelle carrément l'équipe qui a fait l'épopée en 2011, qui a été championne.
Oui, parce que même en ayant l'équipe type, on a souvent été sur certains matchs sur le fil du rasoir, sur ce type de match. Où des fois tu joues contre une équipe regroupée, tu trouves pas les solutions. En tout cas, les joueurs titulaires et qui te poussent depuis le début du championnat, et en l'occurrence Pépé, Ikoné et Bamba, qui arrivent toujours à trouver des solutions, notamment sur des attaques rapides. Là, c'était un peu plus compliqué ce soir. Et là où nous on arrivait à faire la différence, c'est que quand les titulaires arrivaient pas à trouver les solutions, le coach il mettait les trois autres qui étaient à l'époque Tullio de Melo, Pierre-Alain Fro et moi, et on avait des profils différents qui permettaient de contourner une défense plus regroupée. Et quand on arrive à ce niveau-là, quand tu n'as pas d'état d'âme et que tu joues, chacun a intérêt à ce que le LOSC soit sur le podium à la fin de la saison. Et voilà, sur ce que je vois, j'étais un peu désarçonné en première période parce que j'ai vu des gestes que j'ai pas l'habitude de voir. J'ai vu des bras un peu sur des passes ratées se lever, des signes d'agacement. Alors je sais pas, je pense que Christophe Galtier a dû resituer les choses à la mi-temps, et justement sur cette deuxième mi-temps, quand je vois la rentrée et le petit Arojo qui est un bon joueur, qui à chaque fois rentre, il a marqué en Coupe de France, il a marqué la dernière fois, il est rentré encore, il a fait une bonne rentrée, les Yao qui se met au niveau, Louis Crémy qui quand il a joué a été performant.
En parlant de rentrée, Ludo, quand tu rentres justement au vestiaire en ayant égalisé à la 45e minute, si tu veux une atmosphère sympa, mais tu égalises à la 45e minute.
Ça. Et Tcheka qui ma foi revient de blessure, et c'est lui qui fait la différence. Quand Thiago Maia justement a été moins bien, donc pour moi c'est l'alchimie est bonne du côté du LOSC, mais attention, s'il y a un conseil à leur donner, ne commencez pas dans des histoires de jalousie, et lui il marque, et lui il a un peu plus de temps de jeu. Tout le monde sera gagnant à la fin du championnat, il faut qu'il reste dans cet état d'esprit-là, et notamment les remplaçants, parce que je sais que c'est dur quand on joue pas comme ça, on aimerait participer plus à la fête, mais des fois il suffit d'une minute ou de deux minutes passer sur un terrain pour changer le cours d'un match. Ça a été le cas ce soir, et si...
Mais pourquoi t'as l'impression qu'il y a des frustrés, toi ?
Non, mais non. Parce que ce groupe, il vit bien.
Le groupe vit bien. Ils se sont dit les choses ou pas?
Ils se sont dit les choses.
Ouais, ok.
Beaucoup de fois.
Ouais.
Non, c'est un groupe, tu sens, il y a une envie d'être ensemble. Ça se sent tout de suite, tu le vois. Mais quand t'arrives dans des périodes de mercato, quand t'arrives dans des périodes où les choses sont un peu plus dures, comme ce soir, et ben des fois il peut y avoir des gestes d'agacement.
L'atmosphère elle s'est créée tout simplement la saison dernière, dans les 5 dernières journées, voire même avant, quand tu te sauves par ce trou de souris et que justement il reste 80% des joueurs, la saison d'après, c'est souvent une très bonne saison.
Il y a des joueurs qui sont arrivés aussi, le mec qui porte le brassard, c'est une recrue, Fonte par exemple, tu vois.
Oui,
le mec qui a apporté quelque chose aussi.
Je te dis 80%, pas 100.
Ouais.
Mais alors là, tu parlais du mercato il y a à l'instant là, Ludo. Mais c'est vrai que ça ne doit pas être facile à gérer ça non plus, Roland, là, pour les dirigeants lillois. Il y a des joueurs qui sont courtisés. Ils expliquent qu'ils doivent rester. C'est, enfin, tu vois, faut gérer ça.
Non, ouais. Mais c'est même pas ça. C'est plus profond que ça. C'est que tu te poses des questions sur ton projet de départ,
ouais.
Qui est à la base de venir. De tu as des associés qui vont réclamer à un moment donné.
Bah, tu poses pas des questions. Tu le sais que tu fais du trading à la base.
Ouais, mais. Est-ce que en étant sur le podium à la fin de la saison, est-ce que tout le monde n'y gagnerait pas aussi, voire plus
au niveau des objectifs, on peut pas te féliciter pour le moment. Hein. La saison dernière, l'objectif dans les 5 premiers, encore un peu tu descends, et cette année que c'est le maintien, encore un peu tu es champion. au niveau des objectifs,
il y a un problème de timing.
Là, quand les Lillois vont nous donner les objectifs, on va faire gaffe, je te le dis.
Ouais. Yaya, tu voulais rajouter quelque chose?
Ben non, je voulais pas rajouter grand chose, si ce n'est que bon, comme j'avais dit, je sais pas si tu te souviens, Ludo, au bout de 6-7 journées, j'avais dit que j'y croyais dur comme fer pour les 3 premières places. Je sais pas si tu te souviens.
Oui, je me souviens très bien.
Pas du tout.
Donc j'y crois toujours. Hein. Donc avec ce genre de match là, bon ben, on peut que croiser les doigts et puis y croire. On peut pas faire autrement. Hein.
Écoute, moi je l'ai annoncé depuis, c'était il y a un paquet de temps où j'ai dit que Lille sera dans les 3. Après, je me suis avancé là-dessus. Voilà. Tu as mon avis sur le sujet.
Donc on est sur la même longueur d'onde.
Ouais, mais bon, vous êtes des optimistes logiques. Mais bon, après, oui, entre Lille voilà, sera dans les 3 et où Lille peut être dans les 3, touchez du bois, faites des prières, qu'il n'y ait pas Pépé qui se blesse. C'est encore loin. Hein.
Yaya, merci d'avoir été avec nous en tout cas.
Merci à vous.
Bonne soirée.
Salut Yaya.
Merci, salut Yaya, à bientôt.
Salut.
Salut, ciao Yaya. Les gars, on va se faire quelques petites questions de Ligue 1 également. Ah. Alors, on rappelle, hein, Lille donc qui sera deuxième à l'issue de cette 21e journée de Ligue 1. Lille qui compte 40 points. Ça fait pour l'instant 4 points d'avance sur l'AS Saint-Etienne. Ça fait pour l'instant 6 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais qui est quatrième. Et puis dimanche, il y a le derby entre Saint-Etienne et Lyon. Alors, Saint-Etienne qui a donc 2 points d'avance sur Lyon. Alors, Lyon qui compte 3 points d'avance sur Montpellier. Mais Montpellier a encore un match à jouer. Donc, ça veut dire que Lyon n'est pas encore peinard. La question, elle est simple. Saint-Etienne-Lyon, qui finira devant l'autre selon vous? C'est vrai que c'est pas courant à ce moment de la saison, avant un derby entre Saint-Etienne et Lyon, de voir Saint-Etienne devant l'Olympique Lyonnais. Là, c'est le cas. Ils ont 2 points d'avance, les Verts. Est-ce que vous avez, je sais pas, une petite tendance comme ça? Qu'est-ce qui se dégage dans votre esprit?
Bah, disons que je regarde tout de suite ce qui reste comme compétition à jouer pour les deux. C'est sûr que si Lyon, il faut leur souhaiter, venait à faire l'exploit d'éliminer le Barça et de faire. Et de continuer la carrière en Champions League, ça pourrait profiter à Saint-Etienne. Si Lyon est éliminé, même en faisant 2 gros matchs contre le Barça, savoir aujourd'hui qui de Lyon et de Saint-Etienne terminera devant l'autre, alors sincèrement, là, j'ai pas la réponse.
Alors, je vous donne quand même le calendrier des deux avant justement ce match de Ligue des Champions pour l'Olympique Lyonnais. Prochain match de Saint-Etienne. Match en Coupe de France à domicile face à Dijon, match à Nantes, match contre Strasbourg, match à Rennes, match contre le PSG. Pour Lyon, ce sera match à Amiens en Coupe de France, rematch à Amiens en championnat, match contre le PSG, match à Nice, Guingamp et match à domicile d'abord face au FC Barcelone également. Ça aussi, c'est important, le calendrier, forcément.
Ben oui.
Ça compte également. Est-ce que toi, t'as une, je sais pas, tu sens quelque chose entre les deux? Lequel tu vois terminer devant l'autre, Ludo?
Comme l'a évoqué coach, sur le si on se projette sur la fin du championnat, il est difficile de donner un avis. Il y a trop de choses à prendre en compte, et notamment le parcours ou pas de Lyon en Ligue des Champions sera à prendre en compte. Maintenant, si tu me parles du match de demain, bah si tu regardes le classement et si tu regardes la dynamique du moment, pour moi, pour une fois, Saint-Etienne est favori.
Saint-Etienne favori.
Ouais, pour moi, Saint-Etienne favori. Ouais. Parce qu'ils sont dans une dynamique où quand tu viens à Geoffroy Guichard quelques jours avant de battre l'Olympique de Marseille, on connaît l'historique que peut représenter ce type de match. On connaît aussi ce que ça peut apporter en termes de confiance. J'ai vu aussi le chaudron exploser sur le deuxième but stéphanois. Un joueur emblématique qui commence à porter aussi cette équipe. Les joueurs autour vont vouloir se mettre au diapason.
Et tu penses à qui en disant ça?
Bah, tu sais très bien à qui je pense. Il n'y a pas 50, hein, de toute façon. Et Lyon, bah, comment
est-ce que...
Et Wabi. Il n'y en a pas d'autres. Hein.
Wabi Kayseri.
Il n'y en a pas d'autres. Et Lyon qui, ben, comme à son habitude, tâtonne toujours. Alors c'est une équipe assez brillante pour pouvoir se mêler à la lutte à la fin de saison, mais en ce moment, honnêtement, Ils sont sur deux matchs nuls, je les vois pas au mieux.
Bah, sur les cinq derniers matchs, Saint-Étienne c'est 4 victoires, 1 nul, Lyon c'est 3 nuls, 1 défaite, 1 victoire. Voilà, c'est sûr. Vont, au niveau dynamique, c'est pas trop
ils
ça.
Vont, mais... ils vont aller ouais, prendre bon, la foudre à Geoffroy Guichard.
Les stats, on
comment ils vont réagir à ça.
Les stats, on les prend comme on veut.
C'est clair.
Quand on veut. Il ouais. y a par exemple des stats que j'étais même pas au courant. On me l'a appris pendant le match contre Marseille où Saint-Étienne n'était pas encore en train de mener au score. Et il paraît que sur les matchs de Saint-Étienne contre les équipes classées dans le haut du tableau, c'est-à-dire dans les neuf premiers, ils ont jamais gagné un match. Donc ils ont fait quatre victoires et trois nuls contre les autres équipes. Donc là aussi, si Saint-Étienne ne gagne jamais un match contre les équipes qui sont classées dans les huit premiers, ça va être difficile quand même.
Supporter de Lyon, supporter de Saint-Étienne, on vous attend 32-16 avant ce match. Hein, ce sera dimanche soir à suivre sur RMC, bien sûr, ce match entre Lyon et Saint-Étienne. Clément, supporter de l'OL, nous a appelé au 32-16. Salut Clément.
Salut les gars.
Salut Clément.
Salut
coach,
Clément.
Un honneur, c'est la première fois pour moi, donc grand honneur pour moi, coach.
Partagé.
Excellent.
Donc, comment tu sens le derby, toi, Clément, oui. Alors
ben moi je vais me montrer un petit peu très confiant justement pour ce match là
ouais.
Parce que simplement je pense que Lyon va confirmer encore cette loi existentielle qui est que lorsqu'on est dos au mur il y a une réaction donc la réaction je la vois venir, je vois un match serré en fait, je vois pas un match où avec beaucoup de jeux, mais simplement je vois Lyon s'en sortir sur un exploit individuel, voilà, ça va. Je pense que ça devrait se jouer sur ça.
Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Simplement au niveau du jeu, là en ce moment, j'ai rien qui me met en confiance, voilà.
C'est-à-dire que le scénario du dernier match, qui était un match quand même pénible pour Lyon, ils sont menés 2-0, ils reviennent à 2-2 et ils ont même failli gagner 3-2. Et derrière ça, on attaque le match de Saint-Étienne. Donc c'est la fin du match, du dernier match, qui te fait être optimiste comme ça ?
C'est même pas la fin du dernier match. Non, le dernier match me porte peu. Finalement, je dirais que
quand même, c'est Lyon, c'est dans le pouvoir, les gros matchs, c'est le pouvoir
surtout
du dernier,
Lyon, dos au mur. Finalement, ce match-là, je dirais qu'il arrive au bon moment parce qu'on est dos au mur, on a des points de retard. C'est un derby, donc c'est un peu acquis tout double. Et on sait que Lyon, dans ces matchs-là, ça peut le faire. Ça va pas être brillant, je pense pas, parce qu'au niveau du jeu, on est tellement médiocre et encore le mot jeu est trop important, tellement il y a rien, quoi. Mais je me dis que voilà, il va y avoir comme bien souvent un regain de forme, un regain de caractère. Et voilà, Saint-Étienne n'est pas non plus au top dans le jeu, même s'il y a Kadri autour, c'est quand même pauvre, faut le dire. Et je vois Lyon serrer les dents, jeter un peu toutes les forces dans la bataille et s'en sortir par un coup de dé, je pense.
Mais Clément, plus globalement, alors on n'est pas là pour faire Madame Irma, mais toi, la saison, tu la sens comment ? Est-ce que tu vois Lyon terminer devant Saint-Étienne à l'issue de la saison ?
Il y a une semaine, je t'aurais dit oui. Là, oui, je vois encore Lyon finir devant, quand même, malgré tout. Parce que voilà, on connaît les ressources de Lyon, ça peut finir fort. Après, le match contre Barcelone sera aussi important, parce que s'il y a une grosse claque, ça peut être dur après de se remettre dans le bain de la Ligue 1. Donc, après, voilà.
Juste, je te coupe deux secondes, Clément, mais ce qui est intéressant avec cette histoire du match face au Barça, c'est que j'ai l'impression que les supporters, ce qui d'ailleurs est normal, hein, ils ont déjà la tête à ce match-là, mais avant, t'as quand même cinq matchs à jouer. C'est ces matchs-là qui vont être peut-être les plus difficiles et les plus importants à jouer, justement. Faudra pas déjà avoir la tête au Barça. Faudra les jouer, hein, Nice, Guingamp, ouais, etc.
Complètement.
Mais c'est pour Lyon, les petits matchs sont les plus durs, c'est les plus pièges. Donc, forcément, les points, ils sont à prendre là. Et voilà, il y a deux semaines, j'étais vraiment, vraiment serein par rapport à la phase aller. Et là, on fait un début d'année qui est vraiment hyper compliqué. Au niveau du jeu, c'est plus pauvre que jamais. Donc, j'ai quand même quelques doutes parce que je vois que Lille enchaîne quand même pas mal. Saint-Étienne revient bien, donc disons que ça sera pas une balade de santé comme ça aurait pu l'être si on avait joué, on va dire, à notre niveau. Donc voilà, ça risque, encore une fois, on va courir et on va peut-être arracher le. Je pense que le podium sera à la fin, mais ça va être encore une fois une lutte pour moi qu'on aurait pu s'éviter. Mais le problème, c'est que sans fond de jeu comme ça, ça repose que sur des exploits comme le coup franc de Fekir, par exemple, contre Toulouse, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on se met vraiment tout seul dans la difficulté. On se facilite pas les choses. Et c'est ça qui est dommage, parce que on voit que lorsqu'on met du rythme et que tout le monde se met à son niveau, y a des résultats qui suivent. Ouais. Et ça suit derrière. Malheureusement, c'est pas si régulier.
Non, non, mais moi, j'attends toujours avec impatience certaines confrontations. Et ce Lyon-Saint-Etienne, ça fait partie des matchs qui me tardent de voir. Parce que voir Saint-Etienne favori, comme le dit Ludo, je dis pourquoi pas. Mais bon, battre Lyon avec le Saint-Etienne que j'ai vu contre Marseille, qui est un Saint-Etienne, pour moi, bizarrement moyen avec... deux exploits de Wabi. Donc c'est, je sais pas. Donc je ne vois pas, moi, Saint-Etienne dominer ce match facilement. Je vois un match très compliqué pour Saint-Etienne.
Ouais, comme Clément finalement. Ouais.
Mais en fait, ça va beaucoup jouer justement par rapport à ce que va proposer Saint-Etienne. Parce que si Saint-Etienne défend bas, ça va être très compliqué du coup pour Lyon. Et ça risque d'être un match vraiment fermé. Après, si Saint-Etienne décide de jouer haut et de faire le jeu, ben là ça peut être vraiment tout bon pour Lyon justement. C'est ce que Lyon attend, je pense, et là ça peut donner un match plus ouvert. Donc ça va beaucoup dépendre, je pense, de comment Saint-Etienne aborde ce match, en fait, parce que Lyon malheureusement s'adapte aussi beaucoup à l'adversaire et fait en fonction. Si le bloc adverse est bas, ça va pas être une partie de plaisir. Donc ça va beaucoup jouer à ça, je pense.
Ludo.
Non, pour moi, oui, je vous rejoins sur le fait que ça va être un match de besogneux.
Ouais.
Je pense qu'il va y avoir, comme à l'accoutumée, beaucoup de duels. Ça risque de peut-être se débloquer sur un coup de pied arrêté. Mais encore une fois, moi, je trouve la dynamique, pour moi, est importante. Mais la dynamique, pas seulement de résultats, la dynamique d'équipe. Honnêtement, autant sur le fond de jeu, on peut dire que Saint-Etienne n'a pas été brillant contre Marseille. Néanmoins, je ne vois pas Lyon brillant dans le jeu non plus, depuis quelques temps, même depuis un certain temps. Et sur le plan de l'agressivité, sur le plan de l'équipe, en tout cas, moi je vois plus Saint-Etienne arriver à créer quelque chose avec en plus l'appui de ses supporters. Après Lyon, t'as des joueurs de talent. Est-ce que l'ego justement va pouvoir réussir à soulever justement le talent des joueurs qu'on attend, Memphis, Bertrand Traoré, justement c'est un match pour briller. Équipe. On les attend, mais sur le plan de l'osmose d'équipe, je les sens pas.
Ouais, c'est un peu ce que disait Clément. Clément, merci
Ludo,
d'avoir été avec
Lyon, c'est les spécialistes du retournement justement, et c'est dans ces matchs là où on n'attend pas que Lyon frappe souvent, et j'ai envie de dire malheureusement, parce que le scénario est couru d'avance, quoi. On voit très bien contre les petits, on sait ce qui va se passer. Et contre les gros, ou dans les gros matchs comme ça, on voit une réaction et c'est pas toujours pareil, en fait. Mais voilà, je compte sur justement l'arc du retournement pour remporter ce derby.
On va pas pronostiquer sur le résultat, parce que le résultat, des fois, ça tient à pas grand-chose, un poteau, un pénalty sifflé, pas sifflé, la VAR, pas la VAR. Donc, en ce qui concerne le match de Lyon, vous imaginez un Lyon comme le Lyon de ces derniers temps, là, décevant, ou un Lyon comme on a pu voir du côté de Manchester City?
Moi, plutôt décevant, comme a dit Ludo, plutôt besogneux, ouais.
Moi, je vois un Lyon très compliqué à battre pour Saint-Etienne. Maintenant, bon, on va le regarder ensemble, le match.
On le verra dimanche. Merci en tout cas, Clément, d'avoir été avec nous.
Merci les gars.
Bonne soirée. Salut Clément, à bientôt. On va accueillir Pascal, supporter des Verts, qui nous a appelé lui aussi au 32-16 et qui est donc en direct avec nous dans l'after. Salut Pascal.
Salut les gars.
Salut Pascal.
Salut Pascal.
Alors Pascal,
Je salue tout le monde. Simplement, je pense par rapport à la position du coach Courbis, que je respecte énormément, que son accent parle pour lui au niveau du favori.
Vu qu'on a battu entre Marseille, il a l'accent lyonnais, il a l'accent stéphanois, mon cher Pascal.
Non, mais il a l'accent marseillais d'il y a deux jours, si tu veux. Hein.
C'est bon, ça.
Non, écoutez, franchement, il ne va pas y avoir photo, quoi. Il faut quand même être sérieux. Hein.
C'est-à-dire
c'est-à-dire, je ne vois pas un autre favori que Saint-Etienne.
Mais on fait bien la différence entre favori et vainqueur, quand même.
Ouais.
Oui, heureusement. La grande incertitude du sport, tu sais, coach, que tu as une des phrases qui m'a fait le plus réfléchir sur le sport et changer d'attitude.
Aïe.
Un jour, tu étais en conférence de presse, je ne sais pas ce qui se passait, il y a un journaliste qui te pose la question, et tu lui réponds. Alors ma mémoire défaite.
Tu peux me rappeler la question.
Je discute avec toi. Tu ne connais rien au football. C'est comme si moi je parlais avec Spielberg en cinéma. Je veux pas discuter avec toi. Moi j'ai fait 7 ans d'études et toi t'es un spectateur. Et moi quand je regarde un match maintenant, je dis je suis un spectateur. Donc je laisse les professionnels et je parle avec mon cœur.
Mais attends, j'y suis pas. C'est
moi qui ai dit ça, journaliste. Ouais.
Bah, il faudra que tu me rappelles carré où, là, parce que tu es sûr que tu n'es pas dans un rêve, là?
Non, je t'avais écouté, le gars te posait une question pour faire court, hein, et tu étais énervé, je pense, et tu lui dis que tu n'as pas la compétence pour juger le foot par rapport à moi. Moi, je prends des décisions, ça sous-entendait par rapport aux entraînements, par rapport à mes années, etc. Et tu devais justifier une décision, je pense.
C'est
une phrase qui m'est beaucoup marquée.
Mais Spielberg, tout ça aussi, j'ai dit?
Non. C'est la continuité de la phrase, quelque part.
C'était... En fait, t'as pas du tout répété la phrase de Roland,
J'ai
Pascal.
Extrapolé, évidemment, dans le
film, ouais,
c'est qu'extrapolé. Si on s'en tient au fait, on s'emmerde, honnêtement. Hein.
Bon, et au final, alors, toi, t'es très confiant pour le derby de dimanche. Et à l'issue de la saison, alors, qui terminera devant l'autre, entre Saint-Étienne?
Non, je pense que là, on a une vraie carte à jouer. Maintenant, ils sont tous confiants. Et vous savez qu'il faut assumer... cette période de favori, parce que la superstition nous joue des tours et nous bouffe la vie. Et je parlais avec Max tout à l'heure et j'ai lu un bouquin de Spinoza qui disait qu'on était superstitieux pour se rassurer. C'est-à-dire qu'en gros, on met tout un tas de trucs pour se rassurer. Moi, j'en ai marre de me rassurer, donc j'ai chassé la superstition. Mais je dis maintenant, on va gagner. Voilà, quand j'ai envie. Avant, je fermais les yeux quand on tirait les pénalties, je tournais, enfin, tout un tas de conneries, quoi. Et là, j'ai regardé jusqu'au bout le match de Saint-Etienne quand il restait 2 minutes, et finalement, on a gagné, tu vois.
C'est une émission culturelle.
Le match de Saint-Etienne, c'est un match qui est gagné avec un scénario extraordinaire pour les supporters, et notamment ce but magnifique, mais de ce match-là, du résultat, évidemment, que tout le monde du côté de Saint-Etienne doit être content. Mais tu l'as trouvé comment, le match par lui-même?
Bah, écoute, je reviens à un truc qu'on a tellement subi pendant des années, le contraire, c'est que le foot, c'est marquer des buts. Donc celui qui gagne, c'est celui qui marque des buts. Et on a le joueur cette année,
t'as
qu'on
a Spinoza, toi, non?
Pour une fois, ils ne sont pas gourés, et le mec, il est capable de planter des buts. Et donc à partir de ce moment-là, ça fait une grosse différence. Et je pense qu'entre le 9 de Saint-Etienne et le 9 lyonnais, il y a une grosse différence, quoi.
Ludo, toi qui as lu Spinoza, Ludo, ouais.
Eh ben, je dirais que c'est tout à fait dans l'esprit de Spinoza.
Tout à fait. Mais d'ailleurs, voilà. Freud le disait lui-même. L'important, c'est les 3 points. Roland.
Mais écoute, je vous écoute. Il n'y a aucun problème pour moi. Donc moi, j'ai pas dû voir le même match que tout le monde. Vous mélangez, ou alors c'est moi qui me trompe, vous mélangez un résultat qui est un résultat qui donne positif, satisfaction à tous ceux qui sont pour Saint-Étienne. Mais après, j'essaie d'analyser le match un petit peu différemment et je me dis, tiens, si par exemple un tel il continue à jouer comme ça, tiens, par exemple le match de Cabella, j'espère que c'est un accident ce match là, parce que Dieu sait que je l'adore, mais si vous me parlez du match de Cabella contre Marseille, je dis certainement qu'il a été perturbé par le fait qu'il rencontrait son ancien club.
Oui,
tu as Kasri, tu t'imagines que comme quoi nous ne sommes pas finalement des connaisseurs. On regarde le match et Dieu sait que j'adore ce joueur et pas depuis aujourd'hui. Eh ben je me suis mouillé et ça a peut-être porté chance pour le superstitieux que tu n'es pas. C'est que j'ai dit tiens, c'est pas son soir, hein, ce soir. Là, il est en train de rater les passes, il est en train de rater les choix, il est en train de rater les tirs.
Et au final, c'est lui qui marque les deux buts.
J'ai pas fini ma truc, tac boum boum bim penalty, boum boum boum, un but extraordinaire. Ben j'ai dit bravo Wabi, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Lui-même
il est en train de te dire qu'il ratait son match qu'après il met 2 buts et il se retrouve avec 8 sur 10 le lendemain à...
Au final ça veut dire que t'as une équipe de Saint-Étienne qui a pas été flamboyante dans le jeu, c'est vrai aussi, et t'as une équipe de Lyon qui est pas flamboyante au niveau du jeu, et ça c'est une récurrente depuis le début de saison aussi.
Oui, mais là ce que nous en tant que passionnés on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'envisager quel match va faire Saint-Étienne contre Lyon et quel match Lyon va faire contre Saint-Étienne. Moi, tu me parles de Lyon, du Lyon que je vois sur ces dernières semaines. Je pense, ça va peut-être pas empêcher Saint-Étienne de gagner. Je pense que nous allons voir un grand match de Lyon. Eh bien, si on ne le voit pas, le grand match de Lyon, je te dirais, je me suis trompé. Que tu veux que je te dise d'autre? Mais si, par exemple, tu veux qu'on attende le match pour que je te dise comment je trouve Lyon une fois que le match est terminé, eh bien non, ce soir, on s'amuse 48 heures avant.
Le football, c'est aussi, c'est la tête et les jambes, mais on oublie aussi le cœur. Le cœur que tu mets à l'ouvrage. Et moi, je vois plus de cœur dans ce que je vois du côté de Saint-Etienne que dans ce que je vois. Alors, du côté lyonnais, on a une équipe beaucoup plus talentueuse sur le papier. Beaucoup plus talentueuse en termes d'effectifs. Ils ont un banc qui est plus fourni que celui de Saint-Etienne.
Ils ont un scénario, Ludo, qui fait que sur les 20 dernières minutes, tu fais rentrer Fekir, ça change le match. Et ben derrière ça, on peut penser que peut-être Fekir a retrouvé une certaine confiance en lui et qu'il peut-être être un acteur important du match à venir. Donc tout ça, mais ce sont des points d'interrogation. On aura la réponse dimanche soir, mais j'attends avec impatience
la réponse dimanche. On remercie Pascal, en tout cas supporter des Verts, qui nous a appelé au 32-16 dans quelques instants. On écoutera Vahid Halilhodžić, qui a été très très bon en conf de presse aujourd'hui. Vous savez qu'Emiliano Sala, c'est quasiment fait à Cardiff.
Pas content Vahid.
Par contre quoi?
Il est pas content.
Pas content. C'est juste après ça.
RMC Football Show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Toujours en compagnie de Roland Courbis et de Ludovico Bragnac. Vous êtes avec nous également au 32-16 sur le hashtag RMC Live, bien entendu sur l'application Direct Studio. On vous rappelle que ce soir, eh bien, Lille s'est imposé 2-1 face à Amiens. Lille qui, du coup, restera deuxième de Ligue 1 à l'issue de cette journée. On était dans les questions. Ligue 1, dimanche, il y a le derby entre Saint-Etienne et Lyon. Et puis alors, on va ouvrir le dossier Nantes. Salah est en partance pour Cardiff City en première ligue. Voilà, il est parti aujourd'hui. Le transfert du buteur argentin qui devrait rapporter un peu plus de 18 millions d'euros au FC Nantes, enfin oui, non, parce que Bordeaux a le droit à 50% du montant de cette vente, donc a priori Nantes toucherait 9 millions d'euros. Alors un départ qui déplaît à Vahid Halilhodžić, l'entraîneur des Canaries était en conf de presse aujourd'hui et il était plutôt inquiet, dubitatif.
Mon sentiment, mes contements, je gardais un petit peu pour moi et je ne veux pas exprimer mon chagrin devant vous surtout, mais en ce moment c'est pas facile. Comme on dit, je suis assez dubitatif de la situation. Je me pose beaucoup, beaucoup de questions.
Il ne reste quasiment pas d'avant-centre de métier.
Bon, si vous êtes prêts, je peux peut-être... Hein, c'est beau, c'est ça. On ne sait jamais. On ne sait jamais.
Voilà, il est dubitatif, Vahid Halilhodžić. Alors, il y avait même une rumeur qui annonçait un possible départ de Vahid. Alors, suite à celui de Salah, il a démenti, Vahid. Alors, cela dit, il a démenti, oui, mais on lui a demandé si sa relation avec le président Keïta, suite à ce transfert de Salah, bah, elle n'était pas un petit peu entamée, cette relation de confiance. Voilà la réponse de Vahid.
Je me pose beaucoup de questions.
Voilà. Il se pose beaucoup de questions, du coup, Vahid. Ça y est, il y a de l'eau dans le gaz, visiblement, les mecs, hein, à Nantes.
Oui, mais attends, si j'ai bien compris, tu me dis, hein, tout ça, c'est pour le départ de Salah. Sans savoir encore s'il ne va pas être remplacé, puisque j'ai entendu parler quand même d'un remplacement de Salah. Et autre chose, quand tu es responsable d'un club et qu'on t'offre une vingtaine de millions pour Salah, même si tu dois donner la moitié à Bordeaux, à un an et demi de la fin de son contrat, en ayant marqué une douzaine de buts, et bon, on voit la bonne volonté de ce joueur-là, mais on voit aussi un talent limité, même s'il y a une marge de progression. Mais c'est impossible de ne pas le transférer.
Alors oui,
évidemment qu'il faut le remplacer.
Mais toi qui a été coach, Roland, Vahid, lui, c'est ce qu'il explique également dans cette conf de presse, qui est beaucoup plus longue que ça, bien entendu. Il dit, moi, en gros, j'ai été prévenu hier par mon président que mon joueur se barrait. Et peut-être que lui voulait pas qu'il parte comme ça. Il voulait peut-être être prévenu avant, pas être mis devant le fait accompli, finalement. C'est ça, ce que dit Vahid aussi.
Alors, les petits détails, on les a pas.
Toi, tu comprends pas la colère de Vahid, finalement.
Ah ben si, évidemment, il est mis au courant 24 heures avant que le joueur parte. Ma foi, nous sommes au courant que Salah il va partir depuis 15 jours et bah il dit que depuis 24 heures.
Après, tu sais, comment, tant que c'est pas fait, l'autre il se dit peut-être qu'il va rester. Hein.
Ouais, mais bon, et en plus de ça, j'ai quand même lu qu'il allait être remplacé. Donc peut-être que le remplaçant, il va être bon. Hein.
Ouais, enfin, même s'il pèse lourd hein, quand même, Salah. Hein. Il pèse 46% des buts de Nantes cette saison, par exemple.
Et pour moi, c'est.
En Ligue 1.
Je sais pas si vraiment le jeu en vaut la chandelle. Donc, comme tu viens de le citer, on t'ampute. De la moitié, donc t'avais deux bras et t'en reste plus qu'un. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle puisque tu es aujourd'hui à 5 ou 6 points je crois du premier non relégable, on t'ampute donc de ton meilleur buteur qui représente 50% de tes buts marqués. Est-ce que tu n'as pas plus sur un transfert à 18 millions d'euros tu en récupères que 8?
Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais, c'est un peu moins de 18, visiblement. Ouais.
Est-ce que la descente en Ligue 2 serait pas plus dramatique et te ferait pas...
Alors, c'est la question qu'on vous pose aussi derrière ça. Est-ce que finalement, sans Salah, Nantes, ils sont pas condamnés à jouer le maintien?
T'es pas mais condamné, ça, mais ça complique les choses,
attendons
forcément.
Attendons de voir la fin du mercato. Sans Salah remplacé, c'est sûr que celui qui te marque une douzaine de buts, en plus, il est pas remplacé, mais tu t'affaiblis. C'est la même catastrophe que s'il s'était pété un genou. Donc, mais là, je pense qu'il sera remplacé. S'il n'est pas remplacé, ben, évidemment,
il faut trouver un bon attaquant à 8 millions d'euros, tu vois, qui est dispo et efficace.
Quand je te dis, je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle, pour lui, pareil. C'est-à-dire que lui, il va toucher un salaire conséquent du côté de Cardiff. Ben, à Cardiff, quoi. Est-ce qu'en restant du côté de Nantes, en faisant une saison à 20 buts, en sauvant le club, est-ce que tu peux pas trouver mieux que Cardiff?
Mais vu la bonne volonté de ce joueur, vous pensez qu'il va avoir 50 clubs sur lui plus moyen que ce qu'il est?
Ben, je trouve que il y a beaucoup de clubs qui recherchent des numéros 9. Alors certes, techniquement, il est peut-être pas brillant comme certains, mais je trouve qu'au niveau de l'état d'esprit, au niveau du don de soi, et malgré le fait qu'il soit comme on peut le penser, je trouve que c'est un cliché un peu.
Par exemple,
il n'est pas si maladroit que ça finalement.
Il y a un club qui est médiatique et médiatisé et qu'on connaît bien, c'est l'Olympique de Marseille.
Ouais. Eh ben moi, je préfère avoir Salah que Balotelli. Voilà, je te le dis.
D'accord. Et par rapport à ceux qui sont là. Ocampos, Metroglou, Germain.
Il est premier dans la hiérarchie pour moi. Hein, si...
Non, mais pour toi, Roland, alors. Toi, tu le places où dans cette hiérarchie, justement? Parce que tu poses la question. Mais...
Moi, je le trouve plein de bonne volonté, mais bon.
Pour toi, il n'est pas meilleur que Metroglou, Salah et Germain.
J'essaie de me l'imaginer à l'Olympique de Marseille.
Et pour toi, il n'a pas sa place devant ces trois-là.
Avec les supporters qui sont quand même des supporters difficiles, mais compétents aussi, puisque des numéros 9 de talent, ils sont capables de dire, tiens, on en a vu quelques-uns.
C'est quoi ces stats?
Alors, c'est pas compliqué, il a marqué 12 buts depuis le début de la saison.
Et les saisons d'avant.
Il a marqué 12 buts sur l'ensemble des deux précédentes saisons également. D'accord. Voilà. Et alors, il pesait, par exemple, 33 buts des buts marqués par le FC Nantes en Ligue 1 la saison dernière, 30% la saison d'avant également. Il a une vraie influence, un vrai poids sur l'équipe.
C'est un joueur qui marque une dizaine de buts par an.
Une douzaine, ouais.
Voire championnat. Entre 10 et 15.
Voilà. Ouais.
Je peux te dire
que... Non, mais attends, Roland, juste pour revenir, pour toi, puisqu'on en parlait, Salah, il est pas meilleur ou il est pas plus compétent que les actuels attaquants de Marseille, par exemple. Toi, t'es dirigeant à l'OM aujourd'hui, on te dit.
Je réfléchis pas comme ça. J'essaie de voir, sans être trop sévère, si un Salah à l'Olympique de Marseille pourrait faire mieux que Germain, Mitroglou et Balotelli. Mais j'ai un grand doute.
Et toi?
Moi, je suis persuadé qu'il ferait mieux.
Ah, franchement, quand tu vois les problèmes qu'ils ont devant, je me dis aussi, peut-être qu'il y a moyen qu'ils fassent quelque chose, non?
Et puis son état d'esprit correspond tout à fait à.
Bah c'est marrant, vous n'êtes pas d'accord là-dessus.
L'état d'esprit
aussi.
Marseillais. Alors certes, il peut y avoir le poids de. Mais c'est un garçon qui a du tempérament. Et moi, je me souviens, j'étais à Bordeaux avec lui. Il était même pas.
Mais il a pas plus de tempérament que. Il y en a un quand même qui est devenu titulaire grâce à son tempérament. C'est pas grâce à ses qualités footballistiques. Oui. Où vous me dites si c'est moi qui suis en mes formes, c'est Ocampos.
Ouais.
Ah oui, non mais.
Après Ocampos, c'est pas un vrai neuf.
Ouais.
Ah ben non,
lui c'est un pur neuf.
Le mettre lui au Campos, voilà. Comme il était sur la gauche.
Ah ben au Campos, moi je le vois bon sans plus. Donc maintenant peut-être je suis sévère, peut-être j'en attends trop.
Tiens, on va revenir du coup à cette histoire quand même de Nantes. Est-ce que Nantes va jouer le maintien du coup sans Emiliano Salah? On va accueillir Patrick, supporter des Canaries, qui nous a appelé au 32-16. Salut Patrick.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Salut Patrick.
Bon Patrick, est-ce que toi t'es en colère de voir partir Salah ou tu dis finalement c'est pas une si mauvaise opération que ça pour le FC Nantes?
Alors moi déjà quand vous parlez de jouer le maintien,
Quant à l'illogique qui est venue à Nantes, c'était pour nous sauver justement de la relégation, vu que c'était tellement bien parti avec Cardozo. L'illogique est venue pour assurer le maintien à Nantes. Il n'est pas venu pour nous faire jouer des places européennes. Nantes a une équipe déjà moyenne, et le départ de Salah, ou que Salah reste, Salah est un plus. Donc sportivement, je dirais, c'est peut-être un peu dommage de le laisser partir. Si on parle financièrement, je pense que c'est une très très belle opération, et je rejoins complètement Coach Courbis qui avait l'air de dire que d'aller dans ce sens-là aussi. Dans un deuxième temps, on connaît pas les finances du FC Nantes. Au mois de juin.
Mais c'est une bonne opération pour qui ? C'est une bonne opération pour vous, les supporters, ou pour qui ? Pour Valdemar.
Il faut que le club survive aussi.
Je viens de dire que sportivement, c'était peut-être pas une bonne opération. Financièrement, c'est une bonne opération pour le club du FC Nantes. Le FC Nantes va passer devant la DNCG comme tout le monde au mois de juin. Je pense que, comme dans tous les clubs, il faut équilibrer les comptes. Donc, et vendre ça là, entre 17, si c'est 17 millions, même s'il va y en rester que la moitié pour le FC Nantes, l'autre moitié allant à Bordeaux, c'est une très très belle affaire. Aujourd'hui, ça là, quand j'entends parler que ça là est parti, je rejoins Coach Courbis, c'est quand même un bon joueur, il fait une très très belle saison cette année, mais moi je suis Salah depuis qu'il est à Nantes, les premières saisons qu'il a fait à Nantes, moi je demandais son départ, et je suis pas le seul, les supporters ont la mémoire courte, hein. Aujourd'hui Salah.
Oh, mais ça fait trois saisons quand même qu'il est
vous avez quand même une certaine sorte d'ingratitude là-haut, et sans déconner, le mec il pèse entre 30 et 50%
En Ligue 1, depuis trois saisons, allô, c'est minimum 30% des buts de Nantes, hein, en championnat.
Allô, je vous ai entendu. Oui, cette année, il pèse énormément.
Non, mais depuis trois saisons.
Depuis trois saisons, dit Patrick.
Non, mais en termes de buts, l'année dernière, il a mis 12 buts cette année.
Eh ben ouais, mais Nantes, l'année dernière, marque pas beaucoup. Au final,
mais
il pèse.
On est d'accord. Mais vous pensez que, par exemple, il y a Koulibaly qui va certainement le remplacer. Au départ, quand Salah est arrivé à Nantes, c'était pas mieux que Koulibaly. Il y a quelqu'un qui s'adapte, qui prête. Aujourd'hui, il a une maturité, il réussit bien. Moi, je le dis, sportivement, c'est peut-être dommage qu'il s'en aille. Il marque des buts, je suis complètement d'accord. Après, il y a un aspect financier dans un club. Et Salah est quand même pas un joueur irremplaçable. On parle pas d'un joueur comme un joueur du PSG, on parle pas d'un Neymar, on parle pas d'un joueur comme ça. On parle d'un bon joueur qui est dans un club qui est moyen aujourd'hui.
Pleine de bonne volonté.
Et qui est plein de bonnes volontés. Je parle en termes de combativité. C'est peut-être un des joueurs du championnat de France qui est le plus combatif. Ça, j'enlèverai jamais à Salah. Salah, au niveau de l'investissement, de donner tout ce qu'il peut donner, il donne tout ce qu'il a. Ça, c'est clair. Après, aujourd'hui, cette année, il est en réussite. Il a été en réussite l'année précédente. Il est techniquement, il s'est amélioré. Enfin, c'est quand même pas un monstre de footballeur.
Il tire les pénaltys aussi.
Et qu'il y a les pénaltys.
Après, il y a aussi un élément, Patrick, je vais aller un peu dans ton sens aussi, et on n'en a pas encore parlé. Il y a aussi la volonté du joueur, hein. C'est-à-dire, ça fait pas mal de mois qu'on sait que ça là aussi, il aimerait bien aller voir ailleurs, peut-être signer aussi un autre contrat, découvrir un autre championnat, etc. Même si Cardiff, exactement, c'est une équipe qui joue le maintien, il faut aussi prendre ça en considération. Peut-être que ça là, il a envie de bouger, les gars.
Mieux.
Bien sûr.
Il attendait mieux.
Mais peut-être aussi que lui-même et son entourage, calmement, se disent, tiens, ce qui se passe du côté de Cardiff, sur le plan financier, même si sur le plan sportif, Cardiff, ça fait pas rêver, peut-être que ça ne se reproduira pas. Donc, profitons de ce qui est là.
Moi, je vois quand même plus loin. C'est réfléchir à court terme. Alors, certes, c'est une rentrée d'argent pour le club qui sera pas si conséquente que ça, puisque c'est 8 millions. Est-ce que le garder quelques mois de plus, il sera notamment à un an de son contrat, donc le club sera en mesure qu'il prendra sera en mesure. Mais quelle est pour moi l'addition à payer si tu descends avec Nantes? Et tu crois pas que l'addition elle sera pas plus salée que de récupérer 8 millions d'euros? Tu crois que tu vas en perdre combien de l'autre côté, mais c'est un vrai risque.
Oui, non.
Et c'est un vrai risque.
La descente avec Nantes, c'est sincèrement, je dirais pourquoi pas, mais alors je la vois pas une seconde.
On remercie Patrick, supporter de Nantes, en tout cas, qui a été avec nous dans quelques instants. On sera avec David Lortolari. On va revenir sur la première affiche de la 18e journée de Bouli. Le Bayern s'est imposé 3-1 à Hoffenheim. Tiens, on vous a lancé un petit sondage quand même sur le compte Twitter de l'After, sur le hashtag RMC Live. Salah aurait-il sa place à Marseille? 68% de oui, quand même. Donc, il y a 32% qui sont d'accord avec toi, quand même, Roland. On peut voir les choses comme ça aussi.
Écoute, c'est pas parce que tu me mets 95 dans les stats que je vois ça là par rapport au numéro 9 qu'on a connu du côté de Marseille. Excusez-moi quand même. Tu veux que je te donne la liste? Même ces derniers.
Comme me souffle Jérôme Thomas dans l'oreillette, ça la fout mal.
Gignac, Batshuayi, Drogba, vous me parlez de Salah.
C'était Daniel Torres.
Excusez-moi.
Réalisateur. Et ben, on vous dit à tout de suite avec David Ortolari, Ludo Bragnac et Roland Courbis, bien sûr, pour la suite et la fin de cet after.
C'est Football Show, l'after foot, Nicolas Villas.
Accompagné de Ludovico Bragnac et de Roland Courbis, on vous rappelle que ce soir, Lille s'est imposé 2-1 face à Amiens. Lille, deuxième de Ligue 1, ce sera le cas d'ailleurs, quoi qu'il arrive, dans le derby dimanche entre Saint-Etienne et Lyon. Voilà, quel que soit le vainqueur, même si Saint-Etienne s'impose, eh bien Lille restera deuxième de Ligue 1. On va filer en Allemagne, les gars, parce qu'il y avait une affiche ce soir en Bundesliga. Hoffenheim s'est incliné à domicile 3-1 face au Bayern München. David Lortolari est avec nous. Qu'est-ce que j'ai bossé mon allemand pendant les vacances. Ça va, David, mon Lorto?
Allô, Freunde. Salut à tous.
David.
Impeccable.
Tu le tiens bien ou pas?
Tu le tiens super bien. En même temps, t'avais un mois pour bosser, un mois de trêve en Allemagne. Hein.
Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est pas faux, c'est vrai. Alors, le Bayern, avec ce succès, qui revient à 3 points de Dortmund. Dortmund qui jouera demain, d'ailleurs, à Leipzig. Ce sera un match important également et une belle affiche aussi. Il était comment, ce Hoffenheim-Bayern Munich, mon Lorto?
Super match de reprise, avec beaucoup d'engagement d'entrée. On s'y attend toujours de la part d'Offenheim qui vend à chaque fois chèrement sa peau dans tous les matchs. C'était le cas encore ce soir, mais c'est le Bayern qui a d'abord impressionné, qui a marqué deux fois, 2-0 par Goretzka. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une vraie bataille pour être titulaire au milieu de terrain au Bayern. Évidemment, les places sont chères, notamment Rames était sur le banc, par exemple. Et Goretzka, qui était en forme dans le stage, moi j'ai un peu observé ce qui s'est passé pendant le stage de remise en forme à Doha pour le Bayern, et Goretzka était l'un des hommes en forme de ce stage, et il l'a confirmé ce soir en marquant deux fois, deux buts donc de sa part, mais le Bayern a commencé à perdre un peu de son énergie au fil du match en deuxième période, a eu moins d'emprise sur le jeu, Hoffenheim en a profité pour revenir, a même failli égaliser, il y a eu un très bel arrêt de Manuel Neuer, et puis le Bayern a plié l'affaire à la fin avec un bon coaching du coach Kovac, puisque James Rodriguez est entré en fin de match et a donné une avant-dernière passe délicieuse. J'invite nos auditeurs à regarder le dernier but du Bayern, parce que c'est vraiment un changement de jeu magnifique de James pour un but de Lewandowski, qui continue donc sa marche en avant. Donc le Bayern a envoyé un signal. Il avait annoncé, ce Bayern, Nico, qu'il voulait mettre la pression sur Dortmund en revenant à 3 points. C'est chose faite ce soir.
Alors, il y avait le retour aussi de Kingsley Coman, hein, du côté du Bayern. Hein.
Oui, deux blessés musculaires, Robben et Ribéry. Donc, ça a servi évidemment la jeunesse. En l'occurrence, Kingsley Coman qui est de retour, qui a retrouvé la plénitude de ses moyens physiques. C'est pas le cas pour Tolisso encore, puisque lui est encore en phase de reprise. Mais Coman était très utile et on le sait, on va le répéter au fil des semaines. Le Bayern est en train de préparer la transition pour l'après. Robben a déjà annoncé son arrêt au Bayern et l'après Ribéry au Bayern. On espère que Ribéry va aussi annoncer son arrêt. Donc Coman était titulaire, c'était tout à fait logique.
Attends, est-ce que Ribéry va annoncer son arrêt
Oui, absolument.
David,
oui,
la rumeur Ribéry à Marseille, c'est crédible ou pas?
Alors retour ça, je à Marseille. Sais pas, Ludo, ce qui est sûr, non, côté Bayern, pour développer un tout petit peu ce que je viens de dire, parce qu'effectivement, ça peut paraître une formule à l'emporte-pièce, ça ne l'est pas du tout. On est lassé maintenant à Munich des derniers épisodes avec Ribéry, et on sait que c'est le petit protégé du président Hoeneß depuis toujours. Ça, il y a toujours eu une immense relation humaine entre Ribéry et le président Hoeneß, mais les derniers épisodes, et notamment ce qui s'est passé il y a encore quelques jours avec les réseaux sociaux, avec l'emportement de Franck au Bayern, on estime qu'il faut fermer maintenant cet énorme chapitre magnifique, cette décennie, même 12 années de présence de Ribéry à Munich, et maintenant on veut passer à autre chose. C'est aussi pour ça qu'on a fait venir le jeune Canadien de 18 ans, Alphonso Davies, qui n'a pas encore joué mais qui est promis à un bel avenir aussi.
Et quel que soit le parcours du Bayern en Champions League,
s'il y avait une victoire en fin de saison, il pourrait rempiler d'une année, ouais. Je pense pas. Je pense que
et une victoire et que lui soit un artisan important de cette victoire.
Alors là où je suis d'accord avec toi, Roland, c'est qu'il faut se méfier de ces vieux grognards, parce qu'on veut envoyer à la retraite un certain nombre de joueurs. Neuer à 32 ans, Hummels 30 ans, Boateng 30 ans, Ribéry 35, bientôt 36 et Robben 35. On veut les envoyer tous ces jeunes, tous ces joueurs, on veut les envoyer un peu à la retraite, mais ils sont capables de nous faire le coup des vieux grognards qui se resolidarisent et qui peuvent faire une deuxième partie de saison bien meilleure que la première. On saura très vite, hein, parce qu'il y a un double match contre Liverpool là qui arrive. Mais je suis assez d'accord avec toi, Roland, dans le sens où Ribéry peut encore montrer de belles choses. Ça, j'en suis totalement convaincu.
Alors, reste avec nous, David. On va se faire les infos du jour. Il y en a certaines qui concernent d'ailleurs des joueurs de Bundesliga. Alors, le PSG cherche du monde au milieu de terrain, ça vous le savez. L'agence RMC Sport a bossé, comme d'habitude. Alors, accord trouvé avec Leandro Paredes du côté du Paris Saint-Germain. Accord trouvé entre le joueur et le club pour un contrat de 4 ans et demi. Négo en cours avec son club qui est le Zénith Saint-Pétersbourg. Sachez que c'est un international argentin qui est passé par la Roma, notamment, par le Chievo, par Empoli aussi. Il a 24 ans. Alors, savoir qu'en ce moment, le Zénith, il y a une délégation qui est présente en ce moment à Doha également, là où est le Paris Saint-Germain aussi. Du coup, les négociations sont en cours. Il y a un autre dossier sur lequel le PSG également est en train de bûcher en ce moment, c'est Julian Weigl, le milieu de terrain de 23 ans de Dortmund. Alors, il plaît beaucoup à Tuchel, qui le connaît très bien. On en dit quoi d'ailleurs de cette info Weigl en Allemagne au Paris Saint-Germain ?
Il y a eu effectivement une inflexion, il y a eu un vrai changement, parce qu'il y a encore quelques semaines, me semble-t-il, Dortmund ne voulait absolument pas lâcher ce joueur-là, parce que Lucien Favre avait besoin de backup, avait besoin de solutions de rechange. Au milieu de terrain d'une part, parce qu'il fait jouer régulièrement Delaney et Witzel en milieu défensif, mais il y a besoin de solutions de rechange en cas de blessure, en cas d'absence, en cas de changement de système, surtout que Pulisic s'est fait et Kagawa quitte le club. Et du coup, on voulait garder Weigl aussi pour dépanner en défense centrale, comme il l'a fait récemment. Mais étant donné que Dan-Axel Zagadou est revenu en défense centrale, ça fait une couverture supplémentaire dans le groupe pour Lucien Favre. Et du coup, il semblerait qu'à Dortmund, on est moins défavorable à un départ de Weigl. On a ouvert la porte. Je serai les dirigeants du PSG. Pour 25 ou 30 millions d'euros, je paye tout de suite. Je prends Weigl, qui a des qualités défensives et offensives remarquables, même si c'est un grand point d'interrogation sur les derniers mois, messieurs. C'est un joueur qui a montré de très belles choses par le passé et qui doit être capable de s'intégrer dans un club comme le PSG.
Alors tiens, puisqu'on parle des milieux de terrain du PSG, sachez que Rabiot, depuis aujourd'hui, s'entraîne avec la réserve du Paris Saint-Germain. Autres petites infos aussi, Adil Rami, qui était absent du match face à Saint-Etienne, est touché à la cuisse, il sera absent pour 3 semaines. Il devrait louper les matchs face à Caen, Lille et Reims.
Non, c'est une rechute.
Oui, exactement. Il était déjà absent. Là, il sera absent pour 3 semaines. Le Toulouse-Angers de la semaine prochaine est décalé du samedi au dimanche 27. Ce sera à 17h. Sachez que Jules Koundé prolonge avec Bordeaux jusqu'en 2023. Petite info qui vient de tomber également de Timothée Mémon. Saint-Étienne veut prolonger Jean-Louis Gasset, l'entraîneur également Selnaes. Angers qui a officialisé la signature de Pape Djibril Diaw, c'est un défenseur sénégalais de 24 ans qui était en Pologne au Corona Kielce. Martial va prolonger 5 ans avec Manchester United. Fellaini est absent 3 semaines du côté de Manchester United également. Il devrait être absent pour le match face au Paris Saint-Germain. Alors c'est un moindre mal pour Solskjaer, puisque c'est pas vraiment un joueur sur lequel il compte depuis qu'il a repris l'équipe en main. Rui Faria, qui fut l'adjoint de Mourinho pendant 17 ans, il a été officialisé aujourd'hui au Qatar. Il va être l'entraîneur du club d'Al Dwail. Il succède au Tunisien Nabil Mahalloul. Giroud, pas content de son temps de jeu. Il a fait une interview aujourd'hui sur ESPN. Il a déclaré: en tant que compétiteur, je ne peux évidemment pas être heureux de rester sur le banc, mais je garde cette frustration pour moi et j'essaie de la transformer en énergie positive, a-t-il déclaré. Sachez également que Benzema ne sera pas opéré tout de suite. Il souffre d'une fracture du doigt. Il a été blessé il y a quelques jours. Le Real Madrid qui a expliqué qu'il sera dispo pour le match face à Séville. On ne sait pas s'il sera opéré. En tout cas, on ne sait pas quand il sera opéré, Karim Benzema. Et puisqu'on parle d'Espagne également, je vous donne le programme des quarts de finale de la Coupe du Roi. Les 23 et 30 janvier prochains, quart de finale de la Coupe du Roi, Retafe-Valence, Séville-Barça, pas mal ça, Espagnol-Bétis et Real Madrid-Gérone. Voilà le programme. Vous avez donc jusqu'à dimanche pour tenter votre chance pour rejoindre la team de l'After grâce à l'After Academy, vous le savez. Vous continuez d'envoyer vos vidéos sur rmc.fr sur les thèmes qui sont proposés. L'élu sera révélé le 4 février. Il y a Mathias qui nous a envoyé cette vidéo notamment. Il y a des centaines de vidéos qui nous sont parvenues et notamment celle-ci.
Pour faire un bon afterien, il faut 3 choses. La première, c'est avoir une vraie personnalité, être capable de créer du débat, de la polémique et convaincre en argumentant et en donnant des exemples très précis. Le deuxième point, c'est être un mordu de football, un drogué du ballon rond, être incollable sur tous les sujets, les championnats européens et même la Liga portugaise. Et le troisième point, c'est avoir une certaine ouverture d'esprit pour faire partie de cette famille qu'est l'after. Parce que l'after, c'est vraiment, on se sent comme à la maison. C'est ce qui rend les gens proches de vous. Ça s'engueule, ça se réconcilie entre les consultants. Bref, il y a une liberté de ton qui est totale. Donc pourquoi finalement il faudrait m'intégrer à l'after foot ? Parce qu'aujourd'hui, je fais partie de cette génération after foot qui était là depuis le début de l'aventure et qui a envie de rêver plus grand.
Ça, ça donne envie
faire
de chialer.
Un bon afterien. Il faut.
Ah, ça y est, on t'a entendu. Merci, ouais, Mathias. Bon. Merci. Merci beaucoup, mon Mathias.
On va voir ce que ça donne en terrain plus hostile.
Ah, oui, parce que là, il était devant Raymond plus grand, le slogan du Paris Saint-Germain avec le logo à côté. Voilà. Ouais. L'air sceptique, toi.
On va savoir le.
Dubitatif, comme
non, 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 mais il faut. C'est sur le terrain qu'on va le juger.
Les gars, le grand jeu, le gagnant du grand jeu de la rentrée. Vous savez que gros lot aujourd'hui. On va accueillir Grégory. C'est lui le grand gagnant ce soir. Salut, Grégory.
Yes, salut
Grégory. Alors Grégory, mon pote, ce soir, t'as pas gagné un cadeau, t'as pas gagné deux cadeaux, t'as pas gagné trois cadeaux, t'as gagné quatre cadeaux, mon pote. Un casque, une enceinte, un skate et une tablette, ça rime pour toi, Grégory. Voilà.
Ah bah c'est
ça. Voilà, t'as envoyé RMC en 7-32-16 et t'as gagné tout ça, mon gars.
Oui, voilà, c'est ça.
Une NZ, tu t'en comptes?
Ah oui,
c'est des jumeaux.
Mais j'ai essayé depuis ce matin dans les grandes gueules et donc voilà, c'est la chance paye.
Jérôme Thomas m'a dit on peut rajouter une nuit avec coach Courbis si tu le souhaites.
Oula. je sais pas, mais
ah c'est une expérience.
Ah, tu dis pas
c'est,
non,
mais... c'est une expérience hein.
Tu dis pas non mais tu dis pas oui.
Bah après c'est je sais pas, ça dépend de le style de vie, mais
non mais ça c'est pour discuter de foot. Hein.
Ah oui, mais justement, mais moi c'était dans ce sens-là, bien sûr.
Ah, oui, non, voilà. Ah, tout bien tout à l'heure. T'es dit.
Ah oui.
Parce que dès que tu as entendu que tu avais une enceinte.
Ah oui, non, mais.
Non, ça t'a fait pas gérer des jumeaux, d'accord.
Je rassure tout de suite, je ne serai pas enceinte, hein, en tout cas. Hein, par rapport à
non, mais tu as gagné une.
Oui, mais non, je voulais faire un jeu de mots, mais bon, c'était mal passé, je crois.
Bon, Grégory, merci beaucoup, en tout cas, et bravo à toi, mon gars. À bientôt.
Ah oui, ben merci bien. Merci beaucoup, RMC.
Merci, merci Roland, merci Ludo, nous salut, on vous salut. Dit à demain, merci Jérôme Thomas, toutes les équipes techniques également, et Daniel Torres, bien sûr, le réalisateur.
Et je salue mon ami Oumar de Marseille qui nous suit toujours attentivement à l'after. Salut Oumar.
Salut Oumar et salut à toutes et à tous, à demain, ciao ciao.
RMC Football Show, l'after foot.